On va continuer avec la guerre côté russe, avec un bouquin, alors que là pour le coup je ne connaissais pas du tout et je ne sais pas d'où il sort, celui-là, « À marche forcée, à pied du cercle polaire à l'Himalaya, 1941-1942 » par Slavomir Ravitch.
Slavomir Ravitch, oui. En fait, ouais, voilà, c'est pas vraiment un bouquin sur la guerre, en fait. Voilà, le roman vient de nulle part. En fait,
tu caches mon truc.
Non, dans le sens, c'est plutôt l'après, en fait. Enfin, ouais. Ça commence pendant la guerre. En fait, Slavomir Ravitch, c'était un jeune homme polonais, bon, du coup, engagé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait,
qu'est-ce qui lui arrive?
C'est difficile, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il est fait prisonnier par les Russes, par les Soviétiques. Il est né à Pinsk. Pinsk, c'est près de la frontière russe. Et il est fait prisonnier par les Russes qui le soupçonnent, en fait, d'espionnage. Il est arrêté sur ce soupçon-là. Et en fait, voilà, il va être mis en geôle pendant quelques semaines, quelques mois, dans l'attente d'un procès qui va se révéler complètement surréaliste, enfin, à la façon russe de l'époque. Et bon, il est totalement innocent. Enfin voilà, il n'a jamais espionné qui que ce soit pour qui que ce soit. Voilà. Et en fait, il va être condamné, enfin, au bout de quelques jours de procès arrachant, et il va être condamné à 25 ans de travaux forcés. Donc là, on l'envoie en Sibérie, dans un camp, pour faire ses 25 ans. Et là commence son très très long voyage, en fait. Il va aller donc en Sibérie.
Parce qu'il va s'échapper, hein.
Alors l'idée, c'est déjà, il va en Sibérie accompagné de 4-5 000 hommes. Ils vont à pied en Sibérie, déjà, pour rejoindre le camp de travail. Donc déjà, c'est un voyage assez épique dans des wagons à bestiaux, enfin pendant des semaines, les hommes tombent les uns après les autres, enfin c'est... Voilà, là on retrouve des récits qu'on peut avoir lus par ailleurs, enfin ça ressemble un peu aux Juifs déportés, enfin voilà, c'est le... Et une fois dans ce camp en Sibérie, en fait, très vite, l'idée de l'évasion lui vient, et là il a une opportunité, l'idée germe en lui, il est un peu poussé aussi par la femme du commandant du camp, chez laquelle il se retrouve parce qu'il y a un poste TSF en panne, et lui se propose comme volontaire pour aller jeter un coup d'œil et éventuellement réparer le poste. Et voilà, elle le pousse aussi un peu à se préparer à ça. Il trouve des compagnons américains, lituaniens, polonais comme lui. Et là, il commence leur évasion. Et en fait, le gros du récit, c'est quand même cette marche forcée.
Le bouquin commence au moment de l'évasion, en fait. Quasiment.
Il commence au moment de la prison en Russie, du procès, enfin voilà, mais l'essentiel, enfin je dirais les trois quarts du livre, c'est quand même cette marche forcée qui commence depuis la Sibérie jusqu'en Inde. Voilà, l'idée, c'est de rejoindre l'Inde, où là, ils vont rejoindre une colonie britannique. Enfin, l'idée, c'est de s'échapper, et du coup, il raconte tout ce voyage à pied avec ses camarades. Donc, je reprends la carte, il y a... C'est un bouquin qui est édité dans la collection Phébus, et le bouquin commence sur une carte, on voit tout leur trajet. Donc ils vont partir de Sibérie, traverser la Mongolie, la Chine, le Tibet, pour aller jusqu'en Inde. Ça fait quelques 6000 km. Et donc ils commencent à raconter tout ça, toute cette marche dans des conditions effroyables. D'abord le froid de la Sibérie, avec toujours la peur d'être traqué. Alors aussi, il faut dire qu'ils choisissent la route du sud. Il y a plusieurs façons, plusieurs chemins à choisir pour s'évader, mais ils choisissent d'aller vers le sud parce que ça lui semble c'est le chemin le plus long. Mais en même temps, il lui semble que c'est le meilleur pour échapper à d'éventuels poursuivants. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que pendant tous les 6000 km, c'est comme si même à un moment où tu peux te dire bon là plus personne les poursuit, c'est fini, et ils ont toujours un regard en arrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière eux, quoi. Donc ils racontent tout ce chemin à marcher, en fait le récit se concentre sur des choses très très finalement très très simples, parce que c'est une écriture très simple, très limpide, hein. C'est pas empoulé, et ça se concentre sur des petites choses, c'est trouver un abri, savoir où dormir, comment manger. Enfin, tu vois, dès qu'il trouve un animal, un renne, enfin, tout se concentre sur des descriptions la façon dont ils trouvent les animaux, dont ils les tuent, dont ils vont les cuisiner, dont ils vont garder aussi par-devers eux pendant des jours les quelques morceaux de viande. Enfin, il y a tout... ils s'attardent extrêmement longuement sur toutes ces stratégies de survie, en fait, et c'est assez passionnant. Et avec aussi pendant tout le récit, des grands moments, des climax, parce qu'ils partent à 6. En cours de route, ils rencontrent une jeune femme polonaise qui, elle, s'est échappée d'un kolkhoze. Donc ils la recueillent, elle devient aussi pour eux comme une sorte de talisman. Il faut s'en sortir, elle a 17 ans, ils la prennent en affection, ils la traînent avec eux. Et voilà, elle aussi, elle se dévoile aussi très, très endurante, très... Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et puis en cours de route aussi, ils rencontrent quelques personnages comme ça, des bergers aussi, qui les aident, qui leur indiquent des chemins. Mais c'est cette marche incroyable, sans boussole, sans rien, ils ne sont jamais où ils sont. À la fin, ils essayent de retracer un peu son chemin, mais tout est flou. Enfin, donc,
ce récit, il met du temps à le raconter après la guerre et au cours de sa vie.
Alors, donc le récit, bon, cette histoire, donc, c'est entre 41 et 42 qu'elle se passe. Ça y est, j'ai un trou. Je crois qu'il édite ça. Le livre est édité fin des années 40, début des années 50.
Ouais, c'est en 55, je crois.
Ah, voilà, ok. Ouais. Milieu des années 50, j'étais pas sûre. Donc voilà, il met quelques années à le raconter. Après, voilà.
Ça devient un succès mondial.
Ça devient un succès mondial. C'est édité dans 30 langues. Il est vendu à 500 000 exemplaires. Enfin, voilà. Bon, et c'est un livre unique, il n'a jamais écrit que ça. Seulement, voilà, ce livre, il a une histoire particulière, c'est que il se trouve que ce livre serait un faux. Voilà, serait un faux dans le sens où Slavomir Ravitch n'aurait jamais vécu ça. Slavomir Ravitch, il semble, en fait, quand le livre a été adapté par Peter Weir, il a fait un film il n'y a pas si longtemps, Les Chemins de la Liberté. La BBC a fait ils ont fait des enquêtes et ils ont découvert que Slavomir Ravitch en fait ne pouvait pas avoir vécu cette marche parce qu'en fait il a été arrêté par les soviétiques a priori pour avoir tué un policier de la NKVD, la police secrète soviétique, et qu'il aurait été pendant ces années-là, 41-42, il aurait été en prison, donc il n'aurait jamais pu effectivement, il n'était pas dans un camp, il ne s'est pas évadé. A priori, il s'est inspiré de l'histoire d'un autre Polonais comme lui. Dont il a retrouvé les traces du récit à l'ambassade polonaise à Londres, voilà. Donc il est mort en 2004, il a jamais donné aucune interview, enfin en même temps on peut comprendre si effectivement tout ça est faux et archi faux. Et en fait le bouquin a été écrit à l'aide d'un genre de ghostwriter, un journaliste anglais, Donald Downing, je crois.
C'est parce que c'est un ghostwriter.
Il
sait pas ce que c'est un ghostwriter.
Une sorte de nègre, enfin quelqu'un qui l'aurait aidé à.
Quand on est poli, on
à écrire ce récit. Et du coup, c'est assez drôle parce que j'ai découvert aussi que ce journaliste était un peu réputé pour avoir. Il voulait absolument prouver l'existence du Yeti, l'abominable homme des neiges. Et
ça nous rassure, sur la véracité du roman.
Oui, et en même temps, il y a une scène sur ces deux Yetis que les fugitifs voient. Voilà, non, mais c'est vrai que dans ce récit, il y a quand même des moments assez incroyables. Il y a quand même, même si le récit est sujet à controverse, est sujet à caution, et on peut douter de la véracité, il y a quand même des moments exceptionnels, la traversée du désert de Gobi, la vision des Yétis, enfin voilà, et puis avec aussi les drames qui peuvent arriver dans le cadre de marches comme ça. Enfin,
alors on rappelle le titre, nom et l'édition.
Donc c'est « À marche forcée » de Slavomir Ravitch, c'est les éditions Phébus qui l'ont édité, et du coup sur l'impulsion aussi de Nicolas Bouvier, qui connaissait ce récit depuis longtemps, et voilà. A priori, là, c'est pas l'édition de poche, mais je crois qu'il va ressortir dans la collection Libretto de Phébus. Voilà.
Merci. Merci Marie. On va finir cette série avec Mélanie. Alors, on parle pas vraiment de guerre, là, c'est un peu tiré par les cheveux, ce que je vais faire.
Oui, je vois pas bien la transition.
Parce qu'Alice Vernet, dont tu as parlé, son premier roman, c'était Dans la guerre.
Ah oui, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais
bon,
effectivement.
Les cheveux que j'ai plus, donc je tire dessus.
Non, c'est pas mal en même temps, quand même.
Et donc, elle a écrit un roman dernièrement qui s'appelle Grâce, enfin dernièrement, non d'ailleurs.
Pas tellement.
Excusez-moi, grâce
non, à... Odile est fan. Alors,
mais le sujet, le sujet est revenu d'actualité dernièrement grâce à notre président bien-aimé.
Voilà, c'est un peu symbolique comme choix en fait.
Ça s'appelle Grâce et Lénimant.
Tout à fait. Donc c'est un roman qui se passe effectivement dans un camp de gitans. Pas loin, donc c'est aussi d'actualité. Et donc c'est une description en fait de la vie au quotidien de ces gitans, et dans leur vie va faire irruption une bibliothécaire, Esther, qui se met en tête en fait de venir partager des moments de lecture avec eux, et surtout avec les enfants en fait. Et c'est vrai que c'est un très très beau roman déjà sur le plan littéraire, et qui est une espèce d'équilibre subtil en fait, puisqu'il n'y a ni misérabilisme ni angélisme, enfin c'est juste une espèce de fresque réaliste que nous décrit donc Alice Fernet.
Elle décrit comment c'est compliqué d'amener les gamins à lire, mais aussi les parents à accepter que ces gamins vont lire.
Parce qu'effectivement la bibliothécaire a du mal à se faire accepter, donc elle passe effectivement par les enfants qui eux ont un regard un peu plus ouvert et tolérant, et petit à petit elle va réussir à rentrer en contact, surtout avec les femmes en fait, c'est un peu un roman de femmes en fait, quand même, faut le dire. Et donc les femmes du clan qui sont en proie aux problèmes du quotidien, donner à manger à leurs enfants, voilà, des choses très très...
Je suis... Pardon.
Voilà. On t'entend mieux.
C'est mieux.
Et alors c'est publié Actes Sud.
C'est ça, Babel pour l'édition de poche.
Merci, donc ça s'appelle Grâce et Dénuement d'Alice Fernet, édition... Babel.
C'est ça.
Deuxième pause musicale. On va écouter, parce que là, je sais, là, cette fois-ci, Violette, elle m'a rencardé. Cults, you know what I mean. You know what I mean, Violette? Déjà la fin, enfin non, c'est pas encore la fin, il reste un quart d'heure, mais c'est presque la fin de ce spécial des poches sous les yeux sur le site de la Gloriette pour au quart de tour. On va parler livre et cinéma.
Oui.
Hein? Et si Flavie ou Alain m'entendent, ils sont attendus au studio high-tech de béton sur le site là. Donc Jimmy, on va parler de Tony Hillerman.
Tony Hillerman, ça c'est facile à prononcer. Hein, parce
qu'il
y a maintenant
Fast
pas de chance sur les
Hillerman.
Heures, hein, quand même. Donc Tony Hillerman, ça c'est facile à dire, c'est un Américain, alors c'est un auteur que j'ai découvert un petit peu par hasard, ça a fait résonner un petit peu le côté Le
côté indien que t'as en toi.
Voilà, le voilà, c'est ça, ouais. La part de l'enfance, tout ça, les Indiens. Et parce que en fait, c'est des enquêtes qui se passent. C'est encore du polar. Hein. Voilà, ouais. Voilà, ce soir, c'est du polar.
Encore une série de polar.
Voilà. Donc, c'est du polar qui se passe dans les réserves indiennes et les réserves indiennes Navarro. Donc, ça se passe plutôt à l'ouest des États-Unis, sur une région qu'on appelle les Four Corners. L'accent est bon.
Allez, voilà. Tu peux y aller. Vas-y, allez, parti.
Donc, c'est à cheval sur quatre États en fait qui ont des frontières angle droit. C'est pour ça les Four Corners. Donc, il y a l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique, et puis le quatrième, l'Utah. Voilà. Donc, en fait, on apprend que dans ces réserves, il y a une police tribale qui est chargée des enquêtes. Local et les petits larcins, les petites choses à régler en interne. Donc il y a une police rurale qui est faite pour régler ces choses-là. Or, il se trouve que des fois, ils sont mêlés à d'autres choses. Parce que, en fait, comme ils sont indiens, eh ben, ils connaissent bien la culture indienne. Donc, pour aller voir les gens, il y a des codes, il y a des manières de se comporter, il y a des choses comme ça. Alors que les gros cons de France, enfin notre presse française, des Américains, les blancs qui arrivent avec leurs gros sabots du FBI, ils n'ont pas les informations qu'ils voudraient avoir et forcément ils n'avancent pas comme ils voudraient sur leurs enquêtes.
Parce que c'est les Indiens de nos jours, c'est pas les Indiens.
Oui, c'est contemporain, tout à fait, c'est contemporain. Alors c'est pareil, moi ce que j'adore dans ces bouquins-là, c'est que en fait à travers ces romans, il nous fait passer toute une connaissance ethnologique de ces populations quoi. Et donc il nous parle des tribus Navarro, des tribus Hopi qui sont juste à côté, enfin voilà.
D'ailleurs, ça s'appelle du polar ethnique pour
c'est
les,
du polar ethnique.
Les gens vachement malins.
Alors, voilà, ouais. Du polar ethnique. Alors il s'est beaucoup inspiré de Arthur Hopfield qui avait commencé à faire ça quelques années auparavant en Australie. Il a fait quelques romans qui se passent dans le bush avec justement la culture aborigène. Alors j'en ai lu des films, mais je trouve que c'est moins fin que Killerman, où on va un peu plus loin dans la connaissance de la culture indienne. Attention, ce n'est pas non plus du traité ethnologique. Hein, ça reste.
Il y a des crimes, il y a des
voilà, enquêteurs. Ouais, il y a des crimes, il y a des enquêtes, il y a des pistes à suivre, il y a tout ça quoi. Alors il y a deux, en fait, dans l'ensemble de ces bouquins. Il y a deux enquêteurs principaux. Il y a Joe Liporn, qui est le vieux briscard, qui a la cinquantaine, qui est indien, mais qui est pas trop traditionnaliste, et qui est bien inséré dans la société américaine, telle qu'on peut s'imaginer. Et puis il y a Jinchi, qui est beaucoup plus traditionnaliste dans l'âme, qui aimerait bien être chanteur. Chanteur, en fait, c'est une espèce de chaman qui, par les chants qu'ils font, rétablissent l'harmonie. Parce que l'harmonie doit être rétablie pour que les choses se passent bien au niveau de la société indienne. Donc il aimerait bien être chanteur. Seulement c'est un peu difficile d'allier à la fois la culture indienne Navarro et puis son boulot de flic. Des fois c'est un petit peu délicat. Donc en ça, je trouve ça super intéressant.
Mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle qui apparaissait dans les bouquins, ça s'appelle Louisa Bourbonnette.
Oui, alors
Bourbonnette.
Oui, Bourbonnette, ouais, oui, oui. Bon, par contre, on ne connaît pas ses origines, hein. Peut-être que voilà, il y a eu des... elle arrivait avec le Mayflower, avec, des filles qui avaient le lys sur l'épaule, je ne sais pas trop, hein, mais bon. Il y a Louise Bourbonnette qui arrive, enfin il y a différents personnages qu'on retrouve à travers toutes les enquêtes de ces enquêteurs.
Et donc Tony Hillerman, on le retrouve où lui au Rivage?
Alors on le retrouve, c'est chez Rivage Noir, donc il n'y en aura plus puisque Monsieur Hillerman est mort, voilà.
C'est
Monsieur Hillerman est mort, donc il n'y aura plus de Hillerman. En sachant que si le domaine vous intéresse, il faut plutôt commencer par les premiers, parce qu'il y a une progression, on voit l'évolution des personnages au fur et à mesure des enquêtes. Il faut plutôt commencer par les premiers. Où on aura plus d'infos au niveau ethnologique. Alors, sur les derniers romans, on sent plus quelque chose qui est la petite cuisine qui commence à faire, et puis voilà, c'est juste
pour illustratif, commandes.
C'est illustratif plus. Mais ceci dit, les enquêtes sont toujours bien ficelées, c'est toujours bien. Enfin, ouais, non, c'est.
Alors,
c'est
j'ai dit qu'on avait parlé de cinéma parce qu'en fait, ces bouquins, enfin, en tout cas, au moins un ont été adaptés au cinéma.
Oui, alors je ne l'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il y en a un qui a été fait. Ouais,
ça s'appelle Le Vent Sombre et c'est produit par Robert Redford.
Oui, voilà, et je crois qu'il y a Val Kilmer qui joue dedans. Donc,
ouais, ouais, enfin, moi, tu sais, moi je travaille que sur Internet, donc j'ai rien vu.
Je crois, qu'il y a Val Kilmer, mais je l'ai jamais vu, alors je sais pas ce que...
Et c'est juste pour voilà. faire la liaison, ouais, parce ouais. que Robert Redford donc, a produit ce film, et il a joué dans un autre film qui s'appelle Gatsby le Magnifique, notre ami Robert Redford. Et ça tombe bien, puisque Marie veut nous chroniquer Gatsby le Magnifique.
Alors,
un vieux truc là. Alors, là
un vieux truc. Alors, là.
Qu'est-ce qui t'a appris de vouloir chroniquer Gatsby le Magnifique?
Alors, Gatsby.
Gatsby.
Gatsby le Magnifique. Ouais. De Francis Scott Fitzgerald. J'y arrive pas, moi non plus.
Je te laisse faire.
Ouais, c'est un vieux truc, ça a été édité en 1925. C'est un grand classique de la littérature américaine. Qu'il est devenu au bout de 20 ans un classique, parce que c'est vrai qu'il a été édité donc en 25 et il n'a pas reçu un accueil critique très chaleureux de la part du public. Donc, mais voilà, dans les années 50, il a été réédité et là il a trouvé son public et il est devenu le livre un peu légendaire de Fitzgerald. Alors, ce bouquin... Moi, je l'avais lu il y a longtemps, j'ai relu pour l'occasion. Gatsby, alors qui est Gatsby? Là, on est dans les années 20, on est aux États-Unis, à Long Island, près de New York. Gatsby, c'est une sorte de personnage très énigmatique, qui a une très belle villa à Long Island, qui donne des fêtes incroyables.
C'est une chose de trader.
Ouais, en fait, là, je viens de c'est un trader. En fait, c'est les années 20, c'est les
oui,
années
ça
de la
pas encore, mais bon.
C'est les années de la prohibition. En fait, il se trouve que Gatsby est un bootlegger, hein, qui a fondé sa fortune sur le commerce de l'alcool, voilà. Seulement, personne ne sait, il y a beaucoup d'hypothèses, tous les gens qui fréquentent sa villa, il est très prodigue, il apparaît rarement pendant les fêtes qu'il donne, c'est une sorte de fantôme comme ça, tout le monde vient chez lui sans connaître vraiment son identité, sans savoir, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de, les gens échafaudent, beaucoup de fiction autour de ce personnage insaisissable, il aurait tué pendant la guerre, il aurait... Personne ne sait comment, sur quoi se fonde réellement sa fortune. Enfin, voilà, c'est une sorte de personnage, voilà, très 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 énigmatique. Et donc, sa villa est le lieu de fêtes, d'orgies où se presse le tout New York, en fait. Et
il y a un deuxième personnage dans le bouquin.
Alors, en fait, tout est vu de l'histoire du point de vue de Carraway, qui est un jeune homme qui arrive à New York pour rentrer dans le monde de la finance. Il se trouve à louer une toute petite maison à côté de la villa majestueuse et somptueuse de Gatsby. Et il va comme ça rentrer en contact avec Gatsby. Alors, ce qui est génial dans le bouquin, en fait, c'est Carraway, il dit une chose très...
Très juste.
Enfin, comment dire? Non, en fait, ce qui est très beau dans le bouquin, c'est que Carraway dit très simplement que Gatsby est l'homme est tout ce qu'il méprise, en fait. Voilà, Gatsby représente tout ce qu'il méprise. Et en même temps, c'est le seul personnage, Carraway, c'est la seule personne qui va sauver Gatsby, dans le sens où... c'est pareil, tant qu'on est riche et qu'on donne à tout le monde et qu'on est prodigue, on est aimé de tous. Sauf qu'au fil de l'histoire, on va se rendre compte aussi que Gatsby va subir, va avoir une fin très très triste, très très tragique. En fait,
mais est-ce que c'est pas un roman contemporain finalement quand on regarde justement le monde des traders, tous ces jeunes qui veulent absolument devenir riches, beaux, intelligents.
En fait, je pense que c'est intéressant au niveau du. Finalement, ce que ça raconte, c'est un monde de faux semblants. C'est il y a quand même une histoire importante dans ce bouquin, c'est que en fait Gatsby s'installe dans cette villa puisque en face de la baie, en face de sa villa, habite Daisy Buchanan, qui est la cousine de Carraway. Et c'est une jeune femme de la haute société qui a épousé un homme très riche, très rustre, très violent, très pour lequel la race blanche est la race dominante, enfin voilà, qui a un discours complètement dégueulasse. Nous, on est dans un environnement extrêmement bourgeois, voilà, on est dans la haute société. Et Daisy Buchanan est une femme ravissante, charmante, pleine d'esprit, mais en même temps très futile. Et en fait, il se trouve que cette jeune femme a failli épouser Gatsby il y a fort longtemps, mais lui, jeune homme pauvre, ne pouvait pas prétendre à obtenir sa main. Et voilà, c'est finalement toute cette richesse, c'est un self-made man, et finalement pourquoi ? Pour l'amour d'une femme. Et en fait, finalement, dans tout ce monde d'illusions, de faux-semblants, Gatsby est le seul qui a un idéal, qui poursuit un rêve, effectivement. Oui, mais je trouve que c'est un bouquin profondément touchant, c'est pas le mot, mais c'est très profond parce que c'est le seul qui est vrai, c'est le seul qui est authentique en fait, c'est le seul personnage authentique. Et voilà, il poursuit une illusion, c'est celle de l'amour. Il aime une femme qui ne l'aimera jamais parce qu'elle, elle ne vit que pour le confort, que pour l'argent, et donc il poursuit quelque chose qu'il n'obtiendra pas. Et voilà.
Et je vais t'arrêter là. Ouais. Donc c'est publié aux poches. C'est très court
c'est
en fait.
Hein. Poche, c'est très court, ça fait 200 pages. Et là j'ai Robert Redford sous les yeux. Et c'est un film qui va être adapté à nouveau, c'est un bouquin qui va être adapté à nouveau par Baz Luhrmann. J'ai lu ça là récemment avec Leonardo DiCaprio. Donc voilà. Et en plus, ce bouquin a pour légende d'être inadaptable au cinéma. Il y a eu beaucoup d'essais d'adaptation. Donc a priori, il y a une forte attente sur ce que va faire Baz Luhrmann avec ce livre-là.
Je t'arrête vraiment cette fois-ci parce qu'on va être en retard. Et puis sur béton, les horaires, c'est les horaires. Hein, je vous le dis. Et en plus, il y a Flavie qui est là. Ce qui est quand même inespéré. La vie, et donc on est dans une rubrique cinéma, et en fait là c'est pareil, je fais des enchaînements à deux balles. Gabriel Garcia Marquez, Journal d'un enlèvement, ça a jamais été adapté au cinéma, je crois qu'il y a plein de gens qui ont essayé de l'adapter, mais ça a jamais réussi.
Ah, je savais pas qu'il y avait des gens qui l'ont essayé.
Oui, il y a des gens qui ont essayé, plein.
D'accord.
Et pourquoi ils ont pas réussi, attendez.
Bonne question.
Parle dans le micro.
Je voulais pas venir. Et tu commences comme ça, c'est vraiment très très dur.
Bon alors, Gabriel Garcia Marquez, qui est un grand écrivain, cette fois-ci fait du journalisme.
Ouais.
Rapproche ton micro.
C'est un livre qu'il a sorti, alors du coup j'ai un peu laissé mes notes là-bas, en 96 je crois.
Ouais.
Donc du coup, Garcia Marquez, donc on lui doit... L'automne du patriarche, chronique d'une mort annoncée, voilà,
ouais.
Des choses assez baroques un peu. Et là, c'est vrai qu'avec le journal d'un enlèvement, on est... en fait, je crois que de base, lui, avant, il était journaliste, avant d'être écrivain, on va dire.
Ouais.
Et même si c'est deux métiers qui se recoupent, évidemment, beaucoup. Et là, c'est dans ce livre, donc il retrace une série d'enlèvements qui a eu lieu en Colombie entre 90 et 91. Des notables un petit peu qui se sont fait enlever par Escobar, enfin le cartel de Medellin, qui voulait négocier avec le gouvernement, enfin négocier, plutôt faire pression sur le gouvernement colombien pour éviter les extradations des narcotrafiquants vers les États-Unis, qui risquaient là-bas des peines plus lourdes qu'en Colombie. Donc ça c'est des faits évidemment réels. Il y a eu toute une série d'enlèvements, et donc dans ce bouquin, Garcia Marquez retrace justement la captivité pendant cette durée de ces personnes-là. Et donc ça, on suit une petite dizaine d'otages qui sont séquestrés dans des endroits différents. On sait bon, voilà, qu'il y en a qui n'ont pas survécu, qui ont été abattus. Mais donc dans ceux qui ont survécu, c'est ces otages-là qui ont demandé en fait, à Garcia Marquez de retracer cette histoire. Et donc c'est très beau parce qu'en fait c'est un écrivain c'est vrai qu'il y a une sobriété mais qui peut-être est aussi nécessaire à cette histoire qui est quand même hyper lourde.
Il fait un vrai boulot de journaliste
pour
interviewer les gens.
Ah ouais, c'est très poussé parce que du coup il est allé voir évidemment tous les otages, évidemment il a fait énormément de recherches. Il y a vraiment le travail journalistique qui fait qu'il n'y a pas du tout de fiction dans l'histoire, mais c'est écrit avec la patte d'un romancier. Mais il n'en rajoute pas non plus. Enfin, c'est un style très différent de ses autres bouquins. Parce que, aussi, justement parce qu'on est dans des faits réels, parce qu'on est déjà sur une histoire hyper poignante et qu'il n'y a pas besoin, à mon avis, de rajouter de pathos, parce que, voilà, déjà, l'histoire en elle-même se suffit. Bon, voilà, moi, je suis une fille, donc je peux l'avouer. C'est, je crois, le seul livre qui m'a fait pleurer. Enfin, voilà. Et c'est hyper rare pour moi en lecture. Et c'est vrai que la fin, c'est... Enfin, voilà, c'est super
dur. Et c'est pas chiant du tout, hein.
Non, pas du tout, parce qu'en même temps... Alors, c'est... Ça s'est décalé, des fois c'est presque fait à la façon d'un polar, hein, c'est-à-dire que on est, je veux pas dire dans le suspense, mais bah bon, c'est clair qu'en même temps, on les suit dans leur ces otages, dans leur lien avec les geôliers, et puis après en parallèle il y a aussi la famille à l'extérieur, les démarches qui sont faites pour essayer de les libérer, comment sont exposés les faits dans les médias. Enfin voilà, on est aussi à l'extérieur. Enfin, on suit beaucoup les otages, il y a aussi le lien avec l'extérieur. Et non, ben voilà. Après, on est évidemment très attaché au personnage et on rentre dans cette histoire comme dans un polar, quoi. Enfin, ouais.
Merci Flavie. C'est Journal d'un enlèvement, Gabriel Garcin Marquez, au livre de poche.
C'est ça.
Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Oh. Et on va terminer si Violette me laisse déborder. Elle me laisse pas déborder, mais... Ah, Damod, bah tant pis, alors on va pas terminer. Mélanie, tant pis pour toi. On parlera pas de Martin Vinclair, du tour en jeu de l'étape. C'est donc la fin de Des poches sous les yeux spécial au quart de tour. Je remercie Flavie, Marie, Mélanie, Jimmy, Daniel et Alain. et je laisse l'antenne... Violette, j'arrête pas de parler Violette. Et donc la prochaine spéciale des poches sous les yeux, on ne sait pas quand ce sera. Mais écrivez à la radio si vous la voulez. Allez, à bientôt. Ciao.